This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche pense j'ai ouvert en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.
Jason l'histoire ou quand le jazz retrouve quelques repères, une émission de Gérard Viols et Alain Vaquier réalisée par Bruno Bertrand. Alors cette année-là, c'est 1951. Nous sommes 5 ans après l'armistice de la Deuxième Guerre mondiale et la guerre ne va pas servir de leçon aux belligérants puisque le théâtre d'opération va se déporter de l'Europe vers l'Asie. Et c'est ainsi que l'Indochine, toute la péninsule indochinoise va être soumise à la guerre et la péninsule de Corée également. La fin de la Deuxième Guerre mondiale a partagé le monde, on a l'habitude de le dire, mais c'est particulièrement vrai pour la Corée. Alors pourquoi ? Parce que le nord de la Corée a été libéré par les forces soviétiques et le sud de la Corée par les forces autour des Américains. Ce qui va donc se passer, c'est que les forces en présence vont se figer et que de fait, la Corée, pays autonome et entier, va être séparée en deux, Corée du Nord, Corée du Sud. Mais avant que les formes se figent et que la frontière s'établisse entre ces deux Corées, eh bien il va y avoir une guerre. Une guerre qui va commencer en 1950 et qui se terminera en 1953. Voici une archive de la guerre de Corée.
La guerre de Corée se poursuit. Sous la conduite du général Walker et du général Dean, héros des combats de Daejeon, les troupes américaines tentent désespérément de stopper l'élan des Nord-Coréens. En dépit de leur ténacité, les Américains n'ont pu, dans la plupart des secteurs de combat, venir à bout d'un adversaire qui a jeté dans la lutte ses meilleures troupes, parfaitement aguerries et munies, ainsi que les officiers de contrôle des Nations Unies ont pu le constater, d'un matériel ultramoderne en provenance du RSS. Chaque jour, l'effort de guerre des États-Unis s'accentue et au camp de Tucson, en Arizona, on dépouille de leurs gaines protectrices de caoutchouc des escadrilles entières de B-29 mises en conserve après la guerre. Chaque jour, des réserves sont acheminées vers le front. Quelles vont être les nouvelles phases de la guerre de Corée ?
Alors à cette guerre, évidemment, personne ne sera vainqueur puisque les forces vont se figer autour du 38e parallèle. Mais ça ne servira pas de leçon aux Américains puisqu'ils vont repiquer et recommencer à se battre après le départ des Français au Vietnam, anciennement nommé Indochine. Alors, que s'était-il passé ? La Corée est une colonie japonaise depuis 1910, antique royaume de Corée, qui a été libéré conjointement donc, par les Soviétiques et les Américains. Comme convenu, et ainsi que je le disais, le pays a été séparé, mais c'est l'ensemble du monde qui a été séparé. Donc, on comprend bien que ce qu'on appellera ensuite la guerre froide va prendre en compte ce type de séparation. Alors tout va se figer autour de... On va prendre un parallèle, qui est une manière de relever la longitude et la latitude de la position sur la planète. 38e parce que c'était plus facile. Et voilà, donc la frontière va être une ligne droite tirée comme ça, arbitrairement, entre deux pays. Deux pays qui sont une même nation et qui vont donc se décliner en deux États distincts à partir de 1948. La République démocratique populaire de Corée, donc autrement appelée Corée du Nord, avec pour capitale Pyongyang, où exerce encore toute une famille, où il y a toute une hérédité qui s'est exercée durant de nombreuses années jusqu'à aujourd'hui, avec donc l'héritier de cette famille, qui dirige sous l'appellation communiste, on peut dire dictatoriale surtout, qui dirige ce pays de main de fer, avec des famines, avec un certain nombre de problèmes de développement. Et puis la République de Corée, au sud, capitale Séoul, pays du développement économique débridé s'il en fut, puisque c'est de là, comme chacun sait, que nous viennent toutes les innovations en matière de communication et de technologies nouvelles. Alors dirigée, elle, de façon un peu moins autoritaire, en apparence plus démocratique, mais qui, malgré tout, est un pays très vénal, terriblement corrompu, et qui a été longtemps dirigé par un homme de 75 ans, qui a passé la main maintenant, mais qui a entretenu un état particulièrement vénal. Alors les États-Unis, évidemment, par rapport à ce pays, ont comme d'habitude sollicité l'ONU, et c'est donc des casques bleus qui ont été impliqués dans cette guerre de Corée et qui donc, mais qui était constitué essentiellement d'Américains et de l'ensemble des alliés qui étaient intervenus au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Le tout dirigé par l'inévitable Douglas MacArthur, généralissime des forces américaines, un individu de 70 ans qui, à 70 ans, conduisait encore la guerre et qui avait donc gagné toute la guerre des Philippines, en fait toute la guerre du Pacifique, et qui comptait bien, mais il n'y est pas parvenu, libérer la Corée en totalité. Aujourd'hui encore, la situation coréenne influe sur la géopolitique internationale, puisque, comme on le sait, régulièrement, la Corée du Nord fait des essais nucléaires, lance des fusées, sous la protection plus ou moins bienveillante de la Chine, et régulièrement, le Japon, qui est lui en première ligne, réagit sous la protection des Américains, et donc régulièrement, on a des échauffourées qui, jusqu'à présent, n'ont pas débouché sur des conflits, mais qui peut à tout moment, et certains géopoliticiens le disent, à tout moment, une nouvelle guerre mondiale pourrait se déclencher à partir de la situation qui est celle de la Corée et donc d'un affrontement sino-américain, évidemment, en contrepoint derrière. Voilà, cette guerre de Corée montre bien que en 51, on est dans une situation d'équilibre et montre bien que tout l'effort de guerre qui avait été fait à l'ouest, tout à coup va se faire à l'est. Et la guerre, de fait, va durer encore jusque dans les années 60, puisque l'Indochine va s'enflammer. Alors quand je dis l'Indochine, c'est le Vietnam, mais c'est aussi le Laos et le Cambodge. Et puis ensuite, les Américains vont entretenir cette guerre du Vietnam jusque dans les années 60. Donc ça va durer très très longtemps et on peut dire que le 20e siècle est quand même le siècle de la guerre presque ininterrompue. Et bien pendant ce temps, le jazz, lui, voit souffler un air frais, une sorte d'air de fraîcheur. Les grands leaders sont toujours là, bien sûr, Dizzy Gillespie, Charlie Parker, le bop est en pleine forme, mais il y a une nouvelle génération qui apparaît, une génération de musiciens blancs, et oui, le jazz n'est pas fait que par des noirs, même si c'est eux qui l'ont créé, et ces musiciens viennent de la côte ouest. Ils jouent un jazz plus, on va dire, moins agressif en apparence, plus harmonique, en tout cas plus éthéré, et donc c'est cette air de vent frais qui vient de l'ouest et qui souffle sur le jazz à New York. Thank you. Art Pepper au saxophone alto. Art Pepper, un musicien assez étonnant et qui aurait dû avoir une grande carrière. Il a eu une grande carrière malgré tout, mais d'abord il est mort jeune et il n'a peut-être pas eu la notoriété, en tout cas auprès du public, qu'il aurait dû avoir. Alors il fait partie de ces musiciens blancs, musiciens tourmentés, qui donc ont amené ce que plus tard on appellera le jazz cool, c'est-à-dire un jazz relax, un jazz en apparence, encore une fois, parce que c'est un jazz très écrit, très élaboré, en apparence facile, en tout cas facile à écouter. Alors, pour plusieurs raisons. D'une part, parce que ce sont des musiciens qui ont beaucoup joué des ballades, souvent de très très beaux morceaux qui étaient magnifiquement composés et qu'ils ont composés souvent eux-mêmes ou ils ont amené de nouveaux compositeurs. Et donc, on sortit le jazz un peu de ses standards habituels, des Gershwin, etc. Et donc, voilà, ça a donné vraiment un nouveau souffle à ce jazz. Alors ici, dans cette formation, c'est un honnête, ce qui n'était pas courant. 8 musiciens, ce n'était pas une formule assez courante à l'époque. Et donc, c'est sous la direction de Shorty Rogers, qui est un trompettiste, arrangeur, chef d'orchestre, que Art Pepper joue en compagnie de Jimmy Giuffrey, qui est aussi un saxophone ténor qui fait partie de cette génération. Un pianiste étonnant à redécouvrir, Hampton Hawes, qui est quelqu'un du niveau de Bud Powell, par exemple. Shelly Main à la batterie, qui est lui aussi alors le batteur de cette génération, nouvelle génération. Un batteur qui mettra en évidence les ballets. Et donc, tout un aspect frottement très, très sensuel dans le jeu à la batterie. C'était enregistré donc en 1951, le 8 octobre exactement, à Los Angeles. Je vous propose d'écouter un autre enregistrement de Art Pepper en compagnie d'un de ses acolytes, Bob Cooper. Ils interprètent un morceau de Bill Russo, compositeur de cette génération, Pooch McGooch. Thank you. C'est l'orchestre de Chelly Main, le batteur que l'on entendait dans le morceau précédent, qui ici a pris le leadership de cette formation, qui comptait donc Conte Candoli à la trompette, que l'on entend en solo au début du morceau, Bill Russo au trombone, qui a écrit l'arrangement du morceau, Bob Cooper et Art Pepper, qui jouent à l'unisson. Alors c'est une des signatures de ce courant cool. Les deux ou les trois musiciens qui exposent le thème l'exposent un peu à l'unisson, c'est-à-dire c'est la même phrase qui est jouée à des niveaux différents puisqu'on a affaire à la tessiture de deux instruments différents. Mais c'est la même phrase. Donc l'unisson ici, que l'on entendait parfaitement bien. Donc Bob Cooper, je l'ai dit, Gene Esposito au piano, Don Bagley à la basse et Shelly Main donc à la batterie, avec ce jeu caractéristique au ballet qui est sa signature. Enregistré donc le 12 novembre 1951 à Chicago. Alors, Art Pepper, donc musicien, les critiques ont dit que c'était un peu un musicien maudit parce que, il a eu affaire à diverses sortes de stimulants, va-t-on dire. C'est quelqu'un qui donc s'appelle Arthur Edward Pepper et qui a connu une enfance malheureuse et solitaire. Ses parents s'étaient connus dans les bars de marins de San Diego et donc son père était marin, très instable. Sa mère, Mildred Berthold, était orpheline d'origine italienne, venait de fuir oncles et tantes adoptifs et traînait dans les bistrots du port. Elle n'avait que 15 ans et accepta d'épouser donc le père d'Art Pepper, qui en avait 29. Elle est tombée rapidement enceinte et donc a finalement accouché de Art Pepper, qui est donc né dans un contexte difficile et qui, malgré tout, s'en est sorti grâce à la musique. Donc, Art Pepper admirait son père qui, lui-même, était musicien. Il était assez bagarreur. Il aurait très bien pu finir comme une sorte de petit loubard de quartier. Eh bien, non. À 9 ans, il découvre l'orchestre de Duke Ellington, celui de Count Basie, de Benny Goodman ou d'Artie Shaw. Et donc, il se met à jouer d'une clarinette. Et il essaie de reproduire le concerto pour clarinette d'Artie Shaw. Alors, ça a eu le mérite d'attirer l'attention. Et c'est Duke Ellington qui va lui donner sa première chance. Et donc, il va commencer à jouer. Alors, après, sa vie est évidemment compliqué entre l'alcool et la drogue, comme beaucoup de musiciens de cette époque. Et je vous propose d'écouter un autre extrait de ce soliste d'exception, parce que, vous l'aurez remarqué, il a un son très particulier. C'est une composition de Charlie Rogers intitulée « Popo ». Thank you. enregistré le 8 octobre 1951 donc par le Charlie Rogers and his Giants, dans lequel s'exprime Art Pepper au saxophone alto, merveilleux Art Pepper, donc, qui disait ceci, dans sa, il a écrit son autobiographie, Straight Life, et il dit ceci dans ce texte, « J'ai reçu un don qui a plusieurs aspects, le don de pouvoir supporter les choses, d'en accepter certaines, d'accepter d'être puni pour ce que la société trouve mal, le don de pouvoir aller en prison. Je n'ai jamais donné quiconque. Quant à la musique, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait comme ça. Je n'ai jamais étudié, jamais travaillé. Je suis de l'espèce de ceux qui savent qu'ils peuvent le faire. Je n'avais qu'à tendre la main. » Voilà, c'est ainsi que Art Pepper se décrit dans son autobiographie. Il est évident que le saxophoniste n'a jamais fait aucune concession. Il aura cramé sa vie, brûlé son existence avec une étonnante ténacité, comme s'il refusait de se rendre. Alors c'est un musicien assez exceptionnel, donc, et comme tous les autodidactes, c'est quelqu'un qui possédait une imagination, une liberté mélodique illimitée, une sincérité absolue et un refus de tout compromis. Malheureusement, usé par à la fois une cirrhose du foie et une maladie de la rate, Art Pepper vit sa santé décliner en 1982 et amaigri et souffrant de mille maux qu'il combattait avec des stupéfiants, il s'est éteint à Los Angeles le 15 juin de cette année-là. Je vous propose d'écouter un dernier extrait. C'est un de ses plus beaux enregistrements avec Shelly Mayne and his friends le 12 novembre 1951, The Count on Rush Street. Et oui, ça s'arrête toujours net, le jazz cool. Il n'est pas cool dans la chute, souvent brutale. Ainsi s'achève ce premier épisode de l'année 1951. Nous poursuivrons notre investigation dans le jazz, ce jazz cool, avec tous les grands leaders de ce mouvement. Mais c'est une autre histoire.
This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici, on t'aime.
I take pride in the words, ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Ce ne sera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche porte Jerry Ware en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.